Orléans Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis juin dernier, les Saoudiennes peuvent conduire. Elles étaient les dernières au monde à ne pas pouvoir le faire. Est-ce à dire que tout leur est désormais possible ? Pas sûr, nous dira Claire Beaugrand, qui note que cette avancée notable s'est accompagnée d'une série d'arrestations d'activistes libérales. Quant au Yémen voisin, marqué par la guerre et les dissensions internes, il donne l'image d'un pays rétrograde et pourtant, depuis 2011, des femmes de plus en plus nombreuses s'investissent dans la vie publique et ce pays connaît, comme d'autres, des figures emblématiques comme Tawakkol Karman, prix Nobel de la paix en 2011. Claire Beaugrand, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Chercheuse au Centre d'études du Golfe à l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne. Alors après les annonces de ces derniers mois par le prince héritier Mohamed Ben Salman, quelle est la situation des femmes aujourd'hui en Arabie Saoudite ?
Je ne sais pas si les grandes annonces mirobolantes en fait de Mohamed Ben Salman ont révolutionné la vie des femmes. Hein. Je pense que les femmes n'avaient pas entendu Mohamed Ben Salman pour demander le droit de conduire. Et souvent, elle disait d'ailleurs que ce serait qu'une question de temps, mais que ça viendrait. Alors, je pense qu'elles attendent des améliorations, mais faut pas voir, malgré tout, une révolution complète. On vient de le voir par les arrestations dernièrement de femmes militantes pour le droit de conduire. Il faut quand même pas en demander trop, si je dirais.
Durant toute leur vie, jusqu'à présent, les femmes saoudiennes étaient obligées d'avoir une tutelle, celle d'un homme. Ça pouvait être un père, un frère, un mari. Elles devaient obtenir une autorisation pour tout, pour sortir, pour travailler, pour se marier. Est-ce que cela est en train de changer ou pas ?
Alors, il me semble effectivement qu'un certain nombre de procédures d'autorisation sont en train aussi d'être assouplies en Arabie. Après, ce sont les mentalités aussi qui prendront un petit peu de temps, mais il y a vraiment des tendances de fond, encore une fois. Moi, j'aime mieux remettre les choses dans un temps plus long que juste Mohamed Ben Salman, par exemple, qui est le programme de bourse à l'étranger du King Abdallah. C'est quand même le King Abdallah qui a été le roi le plus réformateur et qui fait qu'il y a un certain nombre de jeunes filles qui sont parties étudier à l'étranger. Donc ça, on va le voir sur le temps long, mais quand elles vont revenir, forcément, il va y avoir un impact sur la société.
D'ailleurs, on a pu le voir, cet impact, puisque beaucoup de jeunes femmes très éduquées se sont emparées des réseaux sociaux, et notamment dans l'affaire de « Nous voulons conduire », il y a eu tout un tas d'expressions sur les réseaux sociaux en faveur des femmes pour conduire en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est peut-être un des effets de cet apport du roi Abdallah.
Oui, tout à fait. Les mouvements de femmes, il faut les rappeler parce que souvent elles passent complètement inaperçues dans la presse occidentale. Il y a eu des mouvements de femmes très forts, notamment de femmes, d'épouses, de mères, pour demander des comptes sur les prisonniers politiques qui étaient accusés de terrorisme. Donc dans des villes qu'on connaît pas nécessairement, mais il y a eu des sit-ins de femmes en ces qualités-là. Et aussi, il y a eu des mouvements d'étudiantes, des mouvements pour les universités d'étudiantes qui sont passées complètement sous le radar, mais les femmes en Arabie tweetent, évoluent, se mobilisent dans les contraintes qui sont les leurs, mais comme partout.
Justement, elles sont de plus en plus instruites, les femmes saoudiennes. Est-ce qu'elles se mobilisent pour un certain nombre de combats, comme vous venez de l'indiquer ?
Oui, tout à fait. C'est ce que je viens de dire, en fait. Et on peut rajouter ce fait que c'est quand même, par exemple, je reviens sur ce programme de bourse parce que pour moi, il aura certainement des effets de long terme. Laisser partir sa fille à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bénin. Hein. C'était souvent les familles royales ou les grandes élites. Maintenant, c'est des programmes qui se démocratisent et qui certainement auront des effets de long terme. Alors, ce sera sous Mohamed Ben Salman, par exemple, mais il faut différencier les effets d'annonce des processus de plus long terme.
Parce que justement, on oublie un peu vite qu'il y a déjà des femmes chefs d'entreprise, il y a déjà des femmes dans le système politique, notamment des députés, par exemple.
Bien sûr, on l'oublie assez facilement, mais la présidente de la Chambre de commerce à Jeddah est une femme. Il y a des femmes qui travaillent aussi à l'Aramco. Il y a des femmes professeurs. Il faut pas avoir une vision caricaturiste de l'Arabie Saoudite. Alors après, effectivement, il y a eu des nominations par le roi Abdallah des femmes au Majlis al-Shura. On a un petit peu pensé que, comme partout, c'était un peu des effets de vignette. Mais bon, c'est aussi partout les effets de vignette dans nos gouvernements. Il faut toujours ce quota. Donc, il y a une présence de femmes en Arabie Saoudite, dans les milieux professionnels. C'est sûr que le fait qu'elles ne pouvaient pas conduire, le fait qu'elles avaient un certain nombre d'autorisations à demander n'était pas forcément facile ou incitatif, mais ça ne les a pas empêchées d'accéder à des positions professionnelles ou de décision.
Alors justement, pour sa première participation à la Biennale d'architecture de Venise, cette courant juin, l'Arabie Saoudite a confié le commissariat à deux femmes. L'une est urbaniste, la seconde est architecte. Est-ce que ça ne ressemble pas à une opération séduction envers les pays occidentaux? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond dans la réforme du pays?
Voilà. Je suis pas tout à fait derrière la décision. Je dirais que cette question est pas propre à l'Arabie complètement. Il y a beaucoup de pays arabes qui font un peu ce genre de nomination à l'étranger. Bon, l'Arabie est particulièrement vulnérable parce que, comme je disais, l'image de marque est très mauvaise. Donc, ils sont toujours un petit peu sous le feu de la rampe, font ce genre de décision.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, les réformes qui sont en cours, depuis déjà plusieurs mois, vous l'avez signalé, voire plusieurs années, est-ce qu'elles touchent l'ensemble des femmes ou une certaine catégorie de femmes déjà éduquées et puis de la haute bourgeoisie, par exemple? Ou toutes les femmes?
Non, je pense que ce qui est en cours est plutôt un processus de démocratisation, parce que je ne sais pas si vous avez vu la une de Vogue qui a fait scandale parce qu'elle est arrivée en pleine au moment des arrestations de militantes. En fait, c'était une princesse qui, elle, était au volant de son cabriolet avec un voile un peu plutôt à l'iranienne, hein, qui montrait les cheveux. Enfin, bon, il y a quand même toute une partie de la société saoudienne qui était déjà très mobile. Ou en tout cas avec de plein pied avec l'étranger qui savait évidemment conduire. Donc là, je pense que c'est on démocratise un certain nombre de droits.
On démocratise, mais avec aussi des arrestations et donc une certaine surveillance.
Oui, quand je dis on démocratise pas du tout politiquement ou en termes de liberté d'association. On démocratise l'accès à l'éducation, comme je l'ai dit, à l'éducation à l'étranger. Mais que les choses soient bien claires, je crois que ce qu'on a vu récemment, c'est absolument pas du tout d'assouplissement en termes d'associatif, de liberté politique, de liberté d'expression, de liberté d'expression dissidente, surtout, a fortiori. Donc, pas du tout de confusion possible.
Merci Claire Beaugrand, chercheuse au Centre d'études du Golfe à l'Université d'Exeter. Et je renvoie à votre dernier livre, Stateless in the Gulf, Migration, Nationality and Society in Koweït. Donc, au Koweït, c'est un livre très, très documenté sur les bidounes. Et c'est édité chez IB Toris.
Merci Eric Bataillon.
Orient Hebdo sur RFI.
La situation au Yémen reste extrêmement tendue en raison de la guerre qui est menée par la coalition régionale emmenée par l'Arabie Saoudite. Elle n'a pas plus d'implication sur la position sociale des femmes qu'avant la prise de pouvoir des Houthis à Sanaa. Cette position reste précaire, même si dans ce pays également, des personnalités tentent de changer le cours des choses. Franck Mermier, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Vous connaissez particulièrement bien le Yémen pour y avoir séjourné à de nombreuses reprises. Comment qualifieriez-vous la situation des femmes au Yémen aujourd'hui ?
Bon, aujourd'hui, malheureusement, la situation des femmes est très précaire, vous l'avez signalé, du fait de la guerre, évidemment. Alors, elles se retrouvent pas sur le front en train de combattre, à part certaines milices qui ont pour fonction surtout de surveiller d'autres femmes, comme peut-être on pourra en reparler à Sama. Mais en tous les cas, elles ont beaucoup de difficultés, notamment à assurer, puisqu'elles ont un rôle de gardienne familiale extrêmement forte, elles ont déjà une difficulté première à assurer l'alimentation de leurs enfants, puisqu'on a des famines dans certaines régions, on a en tout cas une malnutrition généralisée dans beaucoup de régions aussi. Et puis, elles ont aussi des problèmes pour assurer la santé de leurs enfants, puisque là, beaucoup d'hôpitaux pour elles sont inaccessibles du fait que le Yémen est encore rural à 70%. Donc, toutes les femmes ne vivent pas dans les villes où il y a des hôpitaux. Et encore, ceux-ci sont dans une situation catastrophique aussi. Mais pour les femmes rurales, c'est encore pire, évidemment, puisqu'elles ne peuvent pas accéder, par leurs propres moyens, en tous les cas, à des centres sanitaires. Donc, véritablement, la situation des femmes, en plus, elles n'ont plus véritablement de représentantes qui pourraient, essayer d'améliorer leur situation. Donc effectivement, c'est très très difficile aujourd'hui au Yémen.
Y a-t-il une différence entre les femmes au sud, enfin l'ex-Yémen du sud, Aden, et puis ceux du nord autour de Sanaa, puisqu'il y a eu à une certaine époque deux Yémen aujourd'hui réunifiés?
C'est vrai qu'on parle beaucoup, lorsqu'on parle du monde arabe, de la situation en Tunisie, autrefois, sous l'époque de Bourguiba, où les femmes avaient obtenu des droits importants. Mais on oublie de signaler que c'était également le cas au Yémen du Sud, entre 1967 et 1990, donc un régime marxiste, en fait, la République populaire et démocratique du Yémen, qui avait notamment instauré dans la constitution de 1970 l'égalité de l'homme et de la femme, et avec une loi sur la famille en 1974, le consentement de la fille obligatoire pour le mariage, la restriction de la polygamie, l'interdiction de la répudiation, et puis un âge légal, surtout, de mariage pour les filles décidé à 16 ans. Et le Nord aussi avait un âge légal jusqu'en 99 pour les femmes, jusqu'à 15 ans, mais effectivement, elles avaient moins de droits que les femmes du Sud, jusqu'à l'unité, donc en 1990. Alors, ensuite, la situation, finalement, pour les femmes, s'est dégradée aussi bien au Sud qu'au Nord, puisque la montée en puissance des islamistes, du parti Al-Islam notamment, et puis aussi le fait que l'État yéménite, le président Ali Abdel-Saler ne s'occupant pas trop de cette situation des femmes, et ne voulant pas contrarier ses alliés islamistes, ont fait que les droits de la femme ont regressé, notamment en ce qui concerne l'âge légal qui a été aboli en 1999.
Alors, est-ce que lors des révoltes de 2011, les femmes sont montées au créneau? Est-ce qu'elles étaient en première ligne de la révolution?
Alors, on se souvient de ces milliers de femmes à Sanaa qui participaient aux manifestations, souvent d'ailleurs de manière séparée, hein, et d'ailleurs les islamistes qui ont rejoint un peu tardivement la révolution de 2011 ont tout fait pour séparer les hommes et les femmes, notamment parce que les femmes aussi insistaient à rester sous les tentes la nuit dans cette place du changement qu'ils occupaient. Et donc la participation des femmes était massive, hein, dans cette révolution, aussi bien à Taiz, à Aden qu'à Sanaa, et surtout elles avaient des revendications propres. D'abord, une augmentation de la représentation féminine des femmes, donc avec un quota de 30%, par exemple, pour tous les partis. Et aussi, évidemment, ces questions relatives aux femmes, telles que le retour d'un âge minimum pour le mariage. Et puis, également, tout ce qui concerne le divorce, hein, pour que les hommes n'aient pas tous les droits en matière de divorce.
Justement, ça, c'est une question essentielle. Est-ce qu'elle est encore en tête aujourd'hui, cette question du mariage et du divorce pour les jeunes femmes au Yémen?
Alors aujourd'hui, la situation de guerre fait que on a l'impression que ces revendications sont mises finalement sont laissées de côté, évidemment, du fait que la priorité est la paix. Mais dans le même temps, on a beaucoup de femmes yéménites qui sont très actives pour mettre en avant les revendications des droits des femmes. Et on peut évidemment, on se souvient tous de Tawakkul Karman qui présidait l'association Journaliste Femme Sans Chaîne, qui a obtenu
prix Nobel.
Prix Nobel en octobre 2011. Mais il ne faut pas oublier d'autres femmes qui ont eu un rôle extrêmement important, Amal Pacha au Yémen, ou Raoufa Hassan, ou Arwa Abdou Osman, ou d'autres femmes qui ont essayé aussi, vraiment très courageusement, hein, d'essayer que la situation des femmes ne soit pas reléguée au second plan, mais devienne aussi soit relayée au sein du gouvernement. Et donc, elles ont eu un rôle très important, notamment lors du processus de dialogue national entre 2013 et 2014. Elles ont participé, elles avaient même un nombre très important de représentantes dans ce processus de dialogue national. Et puis, je voudrais aussi citer aussi une femme qui joue un rôle très important comme intellectuelle, c'est Bouchra al-Maktari, qui vient de publier un ouvrage à Beyrouth sur la guerre, et notamment sur les témoignages des Yéménites, et notamment des femmes sur la guerre. Et je crois que c'est ce qui donne beaucoup d'espoir. C'est justement l'importance qui est toujours continuée de ces femmes qui persévèrent dans la représentation de toutes ces femmes qui n'ont pas voix au chapitre aujourd'hui dans cette situation catastrophique que connaît le Yémen.
Oui, des femmes qui luttent pour l'égalité homme-femme, qui a existé à une époque, et des femmes qui sont différentes finalement de celles que l'on voit parfois sur des vidéos de propagande, qui sont armées avec des armes très importantes, des bazookas, des lance-missiles, et qui défilent complètement noires, avec des gants noirs et une casquette rouge, et qui font finalement de la propagande.
Alors, effectivement, si les fondamentalistes sunnites ne mettent pas les femmes au combat. En revanche, les fondamentalistes chiites, que sont les Houssis, donc les partisans de Dieu, les Ansar Allah qui gouvernent à Sanaa, eux ont créé une milice féminine qu'on appelle les partisans de Zainab, les Zainabiyat, et qui défilent effectivement dans les rues de la capitale, toutes de noir vêtues et avec leur kalachnikov, et qui ont pour principale mission finalement de surveiller les autres femmes, de les fouiller, etc. Et qui sont mises en scène aussi comme pourrait le faire le Hezbollah au Liban ou le régime iranien. Elles font partie aussi aujourd'hui, ces miliciennes, de la campagne de propagande des Houssis à Sanaa. Ces fondamentalistes chiites qui finalement ont aussi interdit à un moment donné la musique également, donc qui ont finalement une politique extrêmement réactionnaire et qui, si elles mettent en avant ces femmes, c'est pas pour leur donner plus de droits, c'est simplement pour qu'elles puissent surveiller d'autres femmes dans la capitale.
Et ces femmes ne font pas avancer la cause des femmes au Yémen?
Non, je crois pas que c'est avec des armes qu'on fait avancer toute cause, et notamment que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs au Yémen, puisqu'on a bien vu que le conflit a accentué les problèmes du Yémen et ont complètement mis en péril son État, et voire même la nation yéménite, puisqu'on parle aujourd'hui d'une possibilité de sécession au Yémen.
Merci Franck Mermier, anthropologue, directeur de recherche au CNRS.
Merci Eric Bataillon.
Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Mathias Golchani a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook ou podcasté sur notre application Pure Radio. Ne manquez pas non plus l'émission de demain, même heure. Avant cela, le journal.